quelque chose qui est excitant, j'en sais rien, et sans doute beaucoup moins provocateur. Mais j'espère tout de même que je vais essayer d'apporter au débat qui se trouve ici que les gens peuvent entrer en résonance avec un certain nombre de choses qui ont été proposées dans un premier temps. Moi, effectivement, je suis là plutôt en tant que co-rédacteur en chef de la revue Nature et Société, qui est une revue qui s'est créée dans les années 90 pour la vocation interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y avait un objectif simple de comprendre aisément l'enfermement, ou en tout cas le blocage des systèmes d'édition sur les disciplines faisait que l'émergence concomitante d'un certain nombre de programmes interdisciplinaires sur lesquels je reviendrai tout à l'heure faisait qu'il n'y avait pas de débouché éditorial, si je puis dire, pour rendre compte de cette expérience qui se mettait en place, d'où la naissance de la mise en place de la revue Nature, Sciences, Société. Donc c'est un petit peu à ce titre-là que je suis, et donc je vous présenterai quelques éléments d'expérience qui sont liés à cette revue. J'ai intitulé ça entre questionnement scientifique et injonction institutionnelle parce que ça a été dit en introduction de la journée, ça a été dit que c'est une évidence pour tous que l'invocation de l'interdisciplinarité parcourt tous les champs de la recherche de l'université ou autre, par un projet de recherche qui ne soit pas obligé de passer, j'ai envie de dire, par les fourches caudines du projet interdisciplinaire, en tout cas rendre grâce à cet enjeu interdisciplinaire. D'une certaine façon, le petit historique que je vais vous faire va, dans le cas français, c'était un peu la demande d'Edwin Zakaï, qui est membre du comité de rédaction de NSS, c'est un peu la thèse suivante, quoi. C'est de dire que peut-être que plus l'injonction institutionnelle a des effets, si je puis dire, et plus le questionnement scientifique tend à être beaucoup moins présent qu'il n'a été au départ. C'est-à-dire ce qui, d'une certaine façon, a un peu enclenché l'interrogation interdisciplinaire ou l'urgence interdisciplinaire par rapport à faire une recherche dans un contexte plutôt marginalisé, ou en tout cas plutôt pionnier, dans les années 90, pour le cas français, j'entends, je reviendrai dessus, s'est traduit plus l'injonction institutionnelle a été forte, et peut-être moins le questionnement scientifique qui portait cette interrogation-là, peut-être est-il beaucoup moins visible qu'on ne croit. C'est un peu pour ça que je l'ai intitulé. Vous me suivrez, vous ne me suivrez pas, je ne sais pas, on verra. Alors, je vais dire un peu de banalité au début, et puis je vais passer assez vite, mais en ce qui concerne le regard que je peux faire, ou qu'on peut faire pour l'expérience française, c'est que c'est évident que la question interdisciplinaire n'est pas liée à la question de l'environnement, comme on dit, tous les champs disciplinaires ont été confrontés dans les recherches à ce type de nécessité de sortir de la discipline, d'aller au-delà. Mais il y a de toute évidence une conjonction en France entre l'émergence des problèmes d'environnement, disons, que ce soit les rapports à la nature, la question du risque, la citoyenneté, et la montée en puissance de l'interdisciplinarité. Il y a vraiment là quelque chose qui se conjugue. Et c'est cette conjonction entre ces deux mouvements-là, si vous voulez, qui veut interpeller la démarche scientifique, ou en tout cas les sciences. Je ne suis pas philosophe des sciences, je ne suis pas sociologue des sciences non plus, mais j'essaie un petit peu de vous donner quelques éléments là-dessus. L'enjeu interdisciplinaire, oui, bon, l'enjeu interdisciplinaire, c'est évidemment assez simple de dire ça, cognitif et empirique. Rapport, on dit toujours rapport de la connaissance avec la complexité, avec la boîte noire, etc., qui appelle ce genre de démarche. Je crois que plus globalement, ça pose la question de la pluralité des sciences. Quoi. Ça pose cette question-là dans un contexte où on a vraiment pensé à un moment donné qu'il y avait une sorte d'unité des sciences, de la science, qu'il y avait la possibilité d'eux, et qu'aujourd'hui, on peut se poser la question réellement de la capacité à penser les sciences comme un tout unifié, unique, et que cette pluralité qui s'impose doit être évidemment traitée, doit être pensée, et c'est à mon avis au cœur de cet enjeu-là que ça peut... Bon, parce que derrière, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle les paradigmes, des preuves de véridicité propres à chaque domaine scientifique, et c'est cette pluralité-là qui, évidemment, est au cœur du problème, qui se traduit sur le plan empirique par des enjeux qui, à mon avis, vont très vite dans l'expérience interdisciplinaire sur des questions de méthode, et des méthodes qui, évidemment, posent le problème de, j'y reviendrai tout à l'heure, d'une simple juxtaposition des disciplines. Dans un contexte où le travail scientifique est rarement monodisciplinaire, je crois même que lorsqu'on se dit discipliné, lorsqu'on fait un retour sur sa propre démarche de recherche, on voit bien que on ne reste jamais dans les contours de sa discipline. C'est pas vrai. On est toujours à travailler sur les marges, à aller chercher, convoquer. Même moi, comme sociologue, dans mon travail, j'ai fait appel aussi bien à l'histoire, à la psychologie sociale, des choses comme ça. On ne reste jamais dans une démarche pure, enfermée dans son paradigme disciplinaire. C'est une utopie. Ça ne correspond pas à la pratique réelle lorsque on essaie de. Bon. Et en même temps. C'est rarement monodisciplinaire, mais depuis Max Weber, on sait très bien qu'il a assez bien analysé que le rythme même, ou en tout cas la dynamique propre aux sciences, c'est la fragmentation, la spécialisation qui est liée à un certain nombre de conditions, qui sont des conditions bien entendu propres à la discipline, mais également qui sont des conditions liées à la division du travail dans la société qui se reproduit dans la manière dont les sciences s'organisent pour répondre aux questions qui lui sont posées. Alors, je voudrais juste attirer, quand je parle, c'est un grand mot, un problème épistémologique, mais c'est un peu d'expérience, c'est-à-dire que, et c'est un point de vue aussi de sociologue, si je puis dire, lorsque on pose cette question de division du travail, c'est évident que on a tous des représentations, et les représentations un peu dominantes dans ce domaine, c'est évidemment une sorte de césure. Robert Fordan parlait de sciences naturelles, sciences sociales tout à l'heure. Il y a une sorte de représentation un petit peu implicite lorsque ces domaines-là se rencontrent dans le cadre de collaborations interdisciplinaires qui font que on a une représentation du fait avéré de la méthode du commensurable du côté entre guillemets des sciences exactes et que on a de l'autre côté, on attend des sciences sociales quelque chose qui s'applique ou s'attache beaucoup plus à la question des faits, des valeurs, du symbolique, etc. C'est-à-dire qu'il y a une perception un petit peu de la division du travail dans cette collaboration lorsque ces disciplines se rencontrent qui charrie, si je puis dire, ce type de regard de l'un sur l'autre. Ça ne veut pas dire que ça correspond à ce que font réellement ces domaines-là, et que j'ai participé à pas mal de comités de programmation interdisciplinaire. C'était évident à chaque fois, lorsque les sciences sociales étaient présentes dans ces programmes de recherche interdisciplinaire, ils étaient la plupart du temps cantonnés dans le registre des ce qu'on appelle le domaine des représentations, soit les domaines des représentations, soit le domaine de l'acceptabilité sociale. Donc il y a une sorte de blocage qui est lié à ce qu'on charrie soi-même dans le regard de l'autre, c'est-à-dire le commensurable, c'est du côté des sciences physiques et biologiques, et le symbolique, c'est de l'autre côté. C'est cette barrière-là, parce qu'on voit bien que c'est aussi bien, c'est pas le même domaine, mais ce type de caricature, ou en tout cas de regard porté l'un sur l'autre, est plus un obstacle. Et c'est évidemment le problème de beaucoup de programmes interdisciplinaires qui se disent interdisciplinaires, qui se mettent en place et qui aboutissent en fait la plupart du temps à une recherche très disciplinaire qui va entre guillemets instrumenter d'autres disciplines qui sont amenées à être des sortes d'expertise externe à la discipline centrale. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose en soi, mais je veux dire, ce genre de situation est très, très lié à, très souvent à ce type de regard croisé entre les présupposés qu'on peut avoir entre scientifiques sur cette division entre le commensurable, le fait, et de l'autre côté, le symbolique et la valeur. Alors, je vous propose une définition, c'est une définition qui n'est pas de moi, hein, et c'est pas pour en faire un dogme, bien entendu, mais bon, voilà, dans l'histoire, Jolivet Le Guay, c'est un sociologue et un biomathématicien, c'est eux qui ont fondé la revue Nature sur Société dont je parlais tout à l'heure, qui ont proposé cette définition, des marges de recherche construites en assemblant de façon méthodique des connaissances, des points de vue, des techniques de travail provenant de disciplines scientifiques différentes. C'est assez basique, c'est très descriptif, ça ne résout rien. J'ai mis volontairement le terme « assemblant » entre, c'était pas dans leur texte, en italique, parce que je pense qu'en fait, quand on dit ça, on a tout dit et rien dit, et que tout l'enjeu, c'est évidemment cette notion d'assemblage qui est le véritable défi qui est lié à ce type de démarche-là. Alors, pourquoi je pose la question, peut-on parler d'un nouveau contexte des pratiques interdisciplinaires ? Je pense effectivement que, alors j'ai bien entendu ce que proposait, ce que disait jusqu'à la fin des disciplines de Robert Frohman, c'est pas dans cet esprit-là que je place ça, c'est davantage dans le fait que je voudrais juste vous proposer deux temps. C'est-à-dire que mon idée, c'est que l'intersimilarité, dans un premier temps, qui, là, concrètement, en France, se met en place avec la Délégation Générale de la Recherche Scientifique et Technique, qui est une sorte d'ANR de l'époque des années gaulliennes, des années 60-80, et qui, ANR, Agence Nationale de la Recherche, qui centralise tous les financements actuellement en France, et qui véritablement propose, j'allais dire, les trois items qui sont très souvent convoqués dans la justification de la recherche interdisciplinaire plus tard, qui est investir le domaine de l'action, c'est-à-dire cette notion de recherche finalisée, de recherche-action, qui est très liée à la question interdisciplinaire dans sa dynamique scientifique et institutionnelle. Je pense que légitimer les choix sociaux de la planification, c'est tout à fait ce qu'on en attend, c'est dit tel quel dans... Et puis, c'est cet appel à la gestion rationnelle qui est, c'est vraiment la grande époque où c'est la rationalisation de l'ensemble du secteur d'activité, que ce soit le transport, l'architecture ou autre. Donc, la recherche, par rapport aux sciences sociales, importe, si je puis dire, un nouveau type de rapport entre connaissance et action et autour de ce qui se fait avec la DGRST. Et c'est intéressant parce que la DGRST, elle invente les procédures de recherche dans lesquelles on est actuellement, c'est-à-dire les conventions de recherche, les actions concertées, c'est-à-dire ces modèles institutionnels qui permettent de construire à la fois la collaboration scientifique et l'incorporation d'un certain nombre de segments de la société, avec une vision qui est c'est très clair, très, très Auguste Comte, si je puis dire, dans son ensemble, dans le contexte français, c'est-à-dire une science sans rupture. C'est vraiment ce qui est proposé. Il faut construire une science, une unité de la science qui va de la matière inerte à l'individu. C'est la formation basée sur le calcul, cartographie et procédures quantifiables. C'est le dialogue homme-machine 60-80, c'est l'arrivée de l'ordinateur avec toute la puissance de calcul que ça peut poser. Et la discipline de synthèse, le langage qui est proposé, c'est les mathématiques. Donc ça, c'est le modèle, si je puis dire, du départ de la recherche interdisciplinaire en France, très pilotée centralement sur ces trois niveaux, enfin disons sur cette vision d'une science unifiée, où c'est pas la question de la pluralité des sciences qui ressort, mais beaucoup plus la capacité à pouvoir, par le biais des disciplines, à pouvoir la réunifier. Je taxe ça d'utopie positiviste dans la mesure, où effectivement c'est un contexte où, là je vais passer très vite, mais vraiment, la planification des années 60 propose des démarches très stables, hein, chacun à sa place. La revue de la DGRST s'appelle le Progrès scientifique. C'est pas évident qu'aujourd'hui on puisse intituler une revue de Progrès scientifique. Donc vous voyez bien en quoi ça porte même si j'ai lu récemment, je ne sais plus, je crois que dans le monde, une réhabilitation de la notion de progrès autour du développement durable, etc. etc. Donc, il ne faut pas non plus fermer la porte, mais la DGRST propose ça. Avec, bon, je caricature là, mais l'idée qui est dominante, c'est, parce que ça me permet d'introduire la suite, c'est que on sait mal. C'est-à-dire que s'il faut aller vers des collaborations, etc., c'est lié à la finitude, certes, mais c'est parce qu'on sait mal. C'est si on a la possibilité d'avoir une connaissance totale, si je puis dire, si, quelque part, on est capable d'agréger l'ensemble des savoirs mobilisables pour répondre à tel ou tel problème. Je vous donne, parce que je pense que ça peut être intéressant, je ne sais pas si je suis très franco-français là, mais un peu quelques éléments du paysage qui s'est passé après, mais qui sont pas, c'est pas totalement anodin, ce qui s'est passé après, après DGRST 80, le CNRS qui met en place des programmes interdisciplinaires de recherche de ce qu'on appelle les Pyrènes sur l'environnement naturel, c'est vraiment un moment d'expérience, et pour le CNRS qui est, qui recouvre comme institution l'ensemble des domaines scientifiques, qui a toute la palette, hein, de la physique nucléaire, les particules, jusqu'à l'ethno-archéologie, etc., etc. C'est très nettement, autour de la question de l'environnement, c'est de pallier un mode de fonctionnement du institutionnel qui est complètement verticalisé, sectorialisé, lié au découpage et qui est basé sur le découpage disciplinaire. Donc c'est la première initiative au sein de cette grande institution de recherche qui date de l'après-guerre, pour essayer de casser ce découpage-là. Mais c'est intéressant de voir que dans le même temps, un autre institut, qui s'appelle l'Institut National de la Recherche Agronomique, l'INRA, met en place, disons, naît au sein de l'INRA, mais dans un esprit complètement de dissidence, alors que au sein du CNRS, c'est quelque chose qui est porté par l'institution elle-même, dissidence liée au fait 1979, aux crises agricoles, au modèle de production agricole qui est derrière et qui est défendu par l'institution dominante, une autre institution qui s'appelle le SLAD. Et enfin, on retrouve le CNRS en 2005, qui là va mettre en place, avec une ambition de transversalité, le département environnement développement durable, c'est-à-dire qu'il doit couvrir la question de l'environnement sur l'ensemble des champs du disciplinaire du CNRS, donc toujours cette volonté de transversalité. Et c'est intéressant de voir qu'en 4 ans, l'expérience qui consiste à créer cette transversalité intersection, si je puis dire, échoue, et ça se transforme en Institut National Écologie et Environnement, l'INE, qui est de toute évidence un retour au découpage, disons, qu'on avait voulu pallier en 1979, c'est-à-dire que se met en place une institutionnalisation des sciences de l'environnement, l'INE est à côté de l'INSHS, l'Institut National des Sciences Humaines et Sociales, etc., etc. D'où la difficulté qu'il y a, effectivement, à sur le plan institutionnel, à essayer de mettre en place des transversalités dans l'expérience française, bien sûr, du CNRS, et autour de ces questions d'environnement. Je fais juste une petite expérience un peu plus concrète, un petit détour par la revue Notre Société en Société, c'est pas pour vous la vendre. Juste de vous présenter quelques éléments de une photographie, un peu, quoi. C'est une revue interdisciplinaire, je vous l'ai dit, fondée en 93. C'est intéressant parce qu'il y a 6 établissements publics de recherche, hein, le CIRAD, CNRS, IFRAMER, INRA qui la soutiennent. C'est une revue qui est basée sur, qui est toujours, dans cette tension entre l'excellence académique et la pertinence, si on peut dire, en termes d'évaluation. Enfin, c'est toujours le problème. Comment à la fois répondre à l'excellence académique et en même temps, comment essayer de trouver une sorte de mise à distance par le biais d'une, ce qu'on a appelé, nous, pertinence, si je puis dire, par rapport à l'évaluation, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'excellence académique, mais c'est aussi la capacité à pouvoir relever un certain nombre de problèmes qui sont liés aux travaux de type interdisciplinaire. Donc c'est pour ça qu'on a mis à côté ce qu'on appelle 4 rubriques, enfin une sorte de côté magazine, donc on n'est pas dans le format qui veut aller chercher l'impact factor à tout prix, sinon tout serait article, etc., etc., puisqu'on a 4 rubriques, regard, libre opinion, repère, enfin bon, si vous avez l'occasion d'aller la voir, elle ressemble à ça. D'ailleurs, on devait en avoir, on les a pas reçus, hein, c'est ça, ouais. Je voulais simplement 3-4 diapos très rapidement, parce que je suppose que le temps passe, oui. Et donc, c'est pour vous donner un peu le type, les auteurs, par exemple, vous voyez. Hein, bon, on n'a pas le temps de trop commenter, mais vous voyez bien que on a les EPST, les fondateurs, c'est les établissements publics de recherche. Donc, on a quand même, si on ajoute l'université française et étrangère, plus universitaire. Des thèmes sont très dominés. Bon, c'est une enquête qu'on a fait en interne, hein, avec toutes les limites que ça peut avoir dans les items que l'on met en place. Beaucoup plus ces questions d'environnement qui dominent, mais voilà. Là, c'est quelque chose qui introduit un peu à l'idée que qu'est-ce que ça veut dire un programme ou un article interdisciplinaire. On s'aperçoit en les regardant que ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut se donner des moyens, c'est-à-dire que on a des articles. Là, j'ai mis exprès 2005-2008 pour montrer un peu l'évolution, qui confirme un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, en rouge, c'est les articles qui vraiment se posent la question de qu'est-ce que c'est qu'une démarche de type interdisciplinaire. Il y a des articles qui... les programmes, c'est-à-dire ce sont des articles qui sont plutôt liés à l'institutionnalisation de la programmation de la recherche et qui se traduit dans des articles. Là, c'est des articles qui avaient hauteur de plusieurs disciplines, et puis ce qu'on a appelé objet, qui est un peu lorsque le travail se fait véritablement autour de, ça peut être question de pollution, question d'OGM, c'est-à-dire vraiment un objet de recherche proprement dit, qui est au cœur d'un objet qui, une sorte d'objet hybride, si je puis dire, qui est capable de mobiliser plusieurs points de vue disciplinaires. Vous voyez, ça, c'est les auteurs par article, c'est-à-dire qu'il y a toujours une dominante de... Un article, on est quand même, enfin, vous allez voir plus loin, plutôt en sciences sociales, quand même, majoritairement, donc ce qui explique pourquoi on a encore des articles qui sont portés par un seul individu, mais c'est quelque chose... Bon, je n'ai pas mis l'enquête précédente, mais c'est quelque chose qui tend à aller vers cette partie-là des tableaux. Les types d'approches, c'est soit des cas d'études, soit des apports, des travaux sur des réflexions méthodologiques et théoriques. C'est complètement lié à l'interdisciplinarité. Ça renvoie un peu aux questions qu'on se pose, épistémologiques ou autres. Et puis, des travaux qui sont liés à des approches, décisions ou actions. Bon. Avec une dominante SHS, je vous l'ai dit, c'est un grand défi, hein, vous comprenez bien pourquoi, d'attirer des sciences venant hors SHS, puisque la valorisation, évidemment, vous avez parlé d'évaluation l'année dernière, la valorisation n'est pas du même ordre. Et en général, les hors SHS qui viennent, c'est plutôt des chercheurs, très souvent un peu confirmés quand même, et qui ont publié toute leur vie en anglais, qui ne veulent plus publier en anglais, ils nous le disent tel quel, et qui viennent travailler avec nous pour une sorte de démarche réflexive sur leur trajectoire. Et ils disent très clairement que cette démarche réflexive, ils préfèrent la faire en français plutôt qu'en anglais, donc parce qu'on a eu des grands débats en interne pour savoir si on passait à l'anglais ou pas, etc. On accepte des auteurs en anglais. Je voudrais juste préciser cette idée d'un nouveau contexte. Pourquoi je parle d'un nouveau contexte par rapport à la DGRST? Je pense que prendre la mesure du statut incertain des savoirs, je voudrais juste... Je ne suis pas particulièrement latourien, mais Latour écrit quelque chose de très, très juste qui dit bien ce que je veux dire là, c'est-à-dire on est passé d'une certitude sur la production des objets sans risque à une incertitude sur les relations dont les conséquences inattendues risquent de perturber tous les ordonnancements, tous les plans, tous les impacts. C'est-à-dire c'est ce passage, évidemment, de quelque chose de relativement stable à la montée en puissance de l'incertitude. Et impact de cette incertitude sur les rapports entre sciences et société, là aussi, bon, ça peut paraître des évidences, mais j'en profite pour vous conseiller un petit bouquin qui est sorti très récemment en France d'un physicien qui s'appelle Aurélien Barraud, qui s'intitule « De la vérité dans les sciences » et qui est vraiment très stimulant sur ces problèmes de compatibilité entre sciences, de qu'est-ce que ça veut dire les sciences, la science, qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est la construction. Et il dit entre autres « La science est une manière de faire un monde parmi d'autres possibles ». Je pense que c'est lorsqu'on dit ça, on est complètement au cœur de l'un des enjeux de l'interdisciplinarité. Je passe vite, mais voilà. Alors, quelques traits de déplacement, me semble-t-il, qui font que la période dans laquelle on est, c'est d'une part les places respectives aujourd'hui du politique, du scientifique, du citoyen sont beaucoup moins identifiées que dans la période gaullienne, si je puis dire. Il suffit de regarder ce que nous raconte sociologie politique, tous les processus décisionnels, On sait très bien que on a l'enjeu n'est plus, ce qui était un peu le cas avant, de traduire la demande sociale. Le rôle des sciences sociales, c'était de traduire la demande ou aller vers l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire que le fait que les positions des uns et des autres dans un processus d'interaction science-société, si je puis dire, le fait que les positions des uns et des autres ne sont plus tout à fait très identifiées et réciproquement, est quelque chose qui, évidemment, modifie complètement les conditions de production de la recherche. Le deuxième élément, et ça c'est peut-être les sciences sociales qui sont le plus sensibles, mais tout le monde fait l'expérience qu'auprès de quand nous travaillons, nous, comme sciences sociales, nous sommes complètement entourés de médiateurs. Nous sommes complètement entourés d'intellectuels du social, qui sont des chargés de mission, qui sont des syndicalistes, qui sont des etc. C'est-à-dire que nous n'avons pas le monopole de la pensée du social, la pensée du politique, et donc le travail doit s'opérer dans ce contexte-là de pluralisme. Donc c'est un redoublement, j'allais dire, il n'y a pas simplement l'enjeu du pluralisme disciplinaire avec les enjeux d'interdisciplinarité, mais il y a le pluralisme de l'exercice de la pratique scientifique dans un univers qui est évidemment complètement modifié du fait que si on accepte que ces savoirs, entre guillemets, profanes sont aussi des paradigmes, quoi. Au même titre que nos propres paradigmes scientifiques, c'est-à-dire sont aussi des intelligences du monde à un moment donné, situées, bien entendu, avec leurs frontières, mais aussi leurs règles internes. Donc, c'est un deuxième élément de déstabilisation, me semble-t-il, ou en tout cas de contexte. Troisièmement, l'enjeu de coproduction au sein de dispositifs d'action. Hein, ça, c'est les sociologues des sciences ont depuis longtemps identifier comment les résultats scientifiques sont toujours des résultats négociés. Ce ne sont pas un chercheur, c'est des intérêts, c'est des affects, c'est pas de la pure science, c'est quelque chose qui a complètement situé. Donc c'est évident que l'enjeu de coproduction au sein de dispositifs d'action collective, qui sont, puisque je vous rappelais que ces recherches interdisciplinaires se sont toujours un petit peu inscrites dans une finalité de recherche-action ou de recherche finalisée, c'est évident que dans ces cas-là, on a des enjeux de coproduction. Ce qui fait qu'on peut dire qu'on est passé, et là aussi ça peut paraître assez simpliste, mais on est passé, mais ça pose des problèmes quand même, d'une sorte de posture de neutralité très objectivante, distance, celle qui se veut dans les sciences, etc., à production de la connaissance, j'allais dire, dans des processus sociaux, à l'intérieur de processus sociaux. Et c'est ce processus, la science sociale en tout cas, en partie devient un processus réflexif à l'intérieur de la production, en tout cas à l'intérieur d'un processus dans lequel elle est engagée. Et je ne sais pas s'il y a des sociologues ici, mais je pense qu'on retrouve en partie de ce point de vue-là toute la tradition du point de vue des sciences sociales lorsqu'on se pose ces questions-là de l'ethnométhodologie de Garfinkel ou toute la tradition de la sociologie pragmatique. C'est-à-dire que, véritablement, comment penser, si bien que, du point de vue des sciences sociales, dans un contexte interdisciplinaire, très souvent, on se demande si le travail n'est pas simplement un travail de maïeutique plutôt qu'un travail au sens classique du terme, de mise à distance et d'objectivation d'une réalité. Plus concrètement, je finirai à peu près là-dessus. Je vous ai mis ça parce que, concrètement, pour revenir un peu sur le contexte, l'interdisciplinarité n'est plus un problème, c'est une solution. Ça, j'étais directeur de laboratoire à l'époque et j'avais régulièrement des réunions avec mon PDG du CNRS, Alain Fuchs. Enfin, régulièrement, non, c'était assez rare. Donc, la parole était assez pesante, enfin disons, avait du prix. Et j'avais été, je ne sais pas si d'autres collègues avaient été, parce que ça n'a pas donné lieu particulièrement à dire, mais j'avais été interloqué d'entendre ça. L'interdisciplinarité n'est plus un problème, c'est une solution. On pourrait imaginer que ce n'est pas choquant en soi, quoi. Mais derrière, si vous voulez, ça, c'était une manière de dire, l'expression un peu facile, circuler, il n'y a plus rien à voir. C'est-à-dire que ça ne devient plus, c'est plus une question, le questionnement scientifique ou le questionnement, disons, de mise à distance épistémologique n'est plus vraiment à l'ordre du jour. C'est quelque chose qu'on peut appliquer, c'est quelque chose. Bon, et dans la foulée, on va mettre en place une mission interdisciplinarité, une section interdisciplinaire au sein du CNRS, dont les bilans sont évidemment, je ne vais pas revenir là-dessus, mais particulièrement mitigés. Plus concrètement aussi, je pense que il faudrait regarder aussi le rôle de l'interdisciplinarité dans la manière dont ça permet aux institutions de se construire une image par rapport aux politiques, quoi, hein, et par rapport à elle-même. Le fait que l'interdisciplinarité ait pris cette telle place dans le discours institutionnel des 20-30 dernières années, jusqu'à irriguer l'ensemble des projets de recherche, etc., de devenir complètement incontournable, n'est sans doute pas simplement le produit d'une urgence scientifique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi regarder ça comme étant, me semble-t-il, le produit aussi d'une capacité de ces institutions à pouvoir se donner une identité, j'allais dire, dans un paysage mouvant au niveau. Et je pense qu'il faut être un petit peu attentif à la montée en puissance maintenant de ce qu'on appelle, je ne suis pas en train de critiquer, des recherches collaboratives, des recherches participatives. En tout cas, en France, c'est très, très clair, hein. Ça devient maintenant le nouveau énoncé possible institutionnel de référence et qu'on va retrouver un peu partout. Donc, certes, on travaille là-dessus, certes, on doit avoir un esprit critique par rapport à ça, mais en même temps, il faut aussi essayer d'identifier le rôle que joue ce type d'énoncé-là dans la manière dont une société, et en l'occurrence l'espace institutionnel des sciences, se définit. Et je crois qu'on est en train de voir le passage de glissement avec un retrait de l'interdisciplinarité qui a fait un peu son temps, avec une montée en puissance des recherches collaboratives. Mais je crois que c'est le même problème qui se pose, la question de la pluralité. J'ai fait récemment une recherche, enfin j'ai piloté une petite recherche sur ces questions de recherche participative. On avait regardé d'un peu plus près un projet de recherche qui était du côté de Colmar, qui avait associé, c'est dans l'est de la France, c'était autour des questions d'OGM, de la vigne, donc quelque chose de très conflictuel, très controversé, où une partie de l'INRA travaillait avec les vignerons. Donc on était dans le modèle très classique, recherche scientifique, acteurs sociaux, quoi. Et on a regardé ça d'assez près, ça a duré 5 ans, je passe évidemment sur les détails, et un certain nombre de questionnements qu'on retrouvait dedans, si vous les lisez, que vous faites abstraction du fait que c'est un enjeu de recherche entre acteurs de la société civile, pour aller vite, vignerons en l'occurrence, et des scientifiques, en l'occurrence des agronomes et des plus que des agronomes, des biologistes, etc., vous vous apercevez que toutes les questions qui sont défilées là, vous les retrouvez, si vous posez, vous pouvez les transposer, si je puis dire, les transporter vers une interrogation par rapport à un programme interdisciplinaire que vous voulez essayer de saisir comme tel. C'est-à-dire un travail qui porte aussi bien sur les conditions de sa possibilité que sur des questionnements appelés à être validés collectivement. C'est vraiment la première phase classique qu'on retrouve dans un programme interdisciplinaire. Comment peut-on travailler ensemble, hein, et est-ce que c'est possible de travailler ensemble et à quel prix, et comment on définit les choses. Ensuite, avec tous les problèmes que l'on rencontre à l'intérieur, qui sont des questions de hiérarchie des savoirs, les tensions entre dissensus et nécessité d'accord, la question de la temporalité qui est très, très proche dans ce, et qu'on retrouve très bien dans l'interdisciplinarité, le collectif de recherche comme construction, et je finis sur l'éthique de projet partagé, c'est-à-dire l'équivalent qu'on construit une communauté de destin. On voit bien que les programmes interdisciplinaires qui tentent un petit peu d'aller au bout sont des programmes où il y a véritablement une communauté de destin, une éthique de projet qui est complètement, un objectif qui est totalement partagé sur le plan éthique. Je passe là-dessus, mais c'est juste pour s'interroger sur le rôle que peuvent prendre les sciences participatives comme référence de substitution dans la construction identitaire institutionnelle dans la période. Et puis, une question, là encore, c'est les communautés épistémiques dont parle Peter Haas, c'est quelque chose qui m'a frappé. NSS, on avait organisé avec une sorte d'école de jeunes chercheurs, enfin, il y avait beaucoup de jeunes chercheurs, et pour savoir un peu quel était le rapport avec l'enjeu interdisciplinaire ou autre, et comment ils règlent le lien entre discipline et interdisciplinarité, ils essaient de le contourner. Ils essaient de le contourner très souvent, pour X raisons, en se réfugiant, c'est pas le bon terme, mais on les retrouve beaucoup dans une démarche qui est liée aux communautés épistémiques. Par communauté épistémique, je pense, les réseaux politico-écologie, Résilience Alliance, toutes ces communautés qui émergent, qui ont leurs bords, leurs frontières aussi, leurs revues, mais qui représentent une sorte de havre, enfin disons qui sont multidisciplinaires, où on a des paradigmes partagés, etc., mais à l'intérieur, c'est le projet qu'on dit écologie ou autre, qui permet, comme une sorte d'objectif final, de dépasser les cloisonnements disciplinaires. Et donc, à l'intérieur de ces communautés-là, beaucoup pensent que ça leur permet de dépasser les problématiques qu'on se pose de la construction interdisciplinaire ou autre, parce qu'ils font partie de la même communauté. Je termine sur... je ne sais pas si vous vous souvenez du que faire du début du XXe siècle, notre cher camarade Lénine, mais c'est... On se disait qu'il fallait un peu plus concret peut-être, en tout ça, mais je crois que je rejoins un certain nombre de choses qui ont été dites auparavant par Robert Frodman sur un certain nombre d'exigences qu'il y a. Accepter de faire l'expérience de la finitude disciplinaire, c'est l'expérience. Moi, quand je vois, on reçoit des papiers à NSS où on rend compte d'expérience interdisciplinaire, de pratique interdisciplinaire, je suis toujours frappé par la dimension moins épistémologique que de la dimension personnelle de l'expérience de l'individu, comme discipliné, si je puis dire. Mais il y a très très souvent une sorte de, non pas de faille, mais quelque chose qui ressemble un peu à une insatisfaction qui est liée à la démarche, mais aussi très souvent à, j'ai presque envie de dire, une petite souffrance. Enfin, c'est pas quelque chose qui... Bon. Donc, je pense que beaucoup de programmes commencent parce qu'il y a cette expérience. On va arrêter. Avec un prix, le temps, j'aurais dû rajouter la reconnaissance. C'est évidemment notre élément. Reconnaître, alors pour une méthodologie des points de vue, là je pense à, c'est vraiment important ça, c'est, vous savez, les travaux sur le genre de Sandra Hardy qui plaident pour cette méthodologie des points de vue, c'est véritablement un point de vue situé, le travail, et donc c'est quelque chose qui, je pense que la méthodologie qu'il faut développer, c'est la notion de point de vue qu'il faut mettre à l'intérieur, et non pas la notion de discipline, rompre avec la prétention totalisante, là encore pas le temps de développer, mais la notion de système, et de toute évidence quelque chose qui nous pose beaucoup plus de problèmes qu'elle nous permet de résoudre des problèmes, parce qu'elle a une vocation totalisante dans un programme et c'est une totalité expressive qui est très desséchante et qui ne pose pas problème. La notion de synthèse, très souvent dévolue aux sciences humaines et sociales, qui reproduit la hiérarchie des disciplines, les sciences sociales ont tendance à prendre le stylo, là encore c'est pas nécessairement, je pense qu'il faut rompre avec cette prétention là. Et puis, là, je l'emprunte à une jeune collègue qui avait fait un papier pour nous et qui disait très bien, et qui expliquait très bien comment elle était passée, avec un hydrologue, elle était ethnologue, elle était passée du terrain en commun au terrain commun, avec le rôle des objets, qui en l'occurrence était une nappe souterraine, sur laquelle, à partir de la nappe et des archives sur la nappe, ils avaient réussi à construire un objet hybride central, à construire leur collaboration et en faire une pratique. Excusez-moi, j'étais un peu là. Merci.